Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité cette semaine, le numéro 2 du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Vos questions, vos remarques, vos commentaires sur Facebook Live ou sur Twitter, vous connaissez le mot-clé Question Pol.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Et avec moi en studio, l'équipe du dimanche, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali.
Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Salut Karine.
Salut à tous.
Avant d'accueillir Gérard Collomb, rapide tour de table pour commencer. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Nathalie?
Eh bien, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on a pu appeler l'affaire Hulot. Alors je vais faire un préambule parce que dans ces questions, il faut toujours faire des préambules. Oui, il faut démasquer des violeurs. Oui, il faut faire la chasse aux harceleurs. Oui, il faut aider les associations qui aident les femmes à porter plainte. Mais brandir des menaces sans interruption. Alors j'en ai vu une cette semaine sur LCI. C'est une jeune femme d'une association qui s'appelle Les Effrontés EES et qui dit « Oui, on a des dossiers, le Hulot, on l'avait depuis novembre. » Et puis il y en a d'autres qui vont suivre, et dans toutes les classes politiques. Là, je trouve qu'on commence à devenir un petit peu fou. On va rappeler que le tribunal, c'est pas dans les médias, que le tribunal, c'est pas sur Twitter, qu'on ne porte pas plainte sur Twitter et encore moins dans une interview. À titre personnel, je trouve que c'est trop ou trop peu, et que si on considère que la fin justifie les moyens, ben on va partir en vrille. Alors, reprenons juste deux secondes cette affaire Hulot. C'est la caricature d'un dérapage dans tous les sens. Et perdant pour tout le monde. Une plainte déposée par Pascal Mitterrand quand c'est prescrit. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de plainte pour mémoire, et je ne vois pas en quoi elle peut s'en sortir, ni comme victime, ni comme rien. Elle ne voulait pas être médiatisée. Elle l'est. Et franchement, c'est pas très étonnant. Quant à Nicolas Hulot, eh ben, c'est classé sans suite, donc il sera jamais vraiment blanchi. Donc dans ce cas-là, tout le monde est perdant. Les médias, parce qu'on dit le tribunal médiatique, Nicolas Hulot, voilà. Et puis une plainte portée, une fois que c'est prescrit, c'est juste totalement aberrant. Alors, je pense que la cause mérite mieux que ça. Quand t'as quelque chose de très drôle ce matin, c'est le papier de Marlène Schiappa dans le JDD. Et on a un peu l'impression qu'elle dit effectivement la justice doit passer, que la justice, pas les médias. Et on a l'impression que c'est un peu un pompier pyromane.
À lire dans le JDD, Marlène Schiappa. Virginie.
Bon, moi, je vais vous parler commerce extérieur. On a appris cette semaine que notre déficit commercial était monté à 62,3 milliards d'euros l'an dernier. C'est 30% de plus qu'en 2016. Et pourtant, quelques jours avant que cette statistique assez désastreuse soit publié, Emmanuel Macron se félicitait à Davos de notre retour sur la scène économique mondiale. La croissance, le moral des ménages, le climat des affaires, c'est vrai, les indicateurs sont au vert, sauf ce satané solde commercial qui reste désespérément dans le rouge et qui à lui seul raconte les maux de notre économie. La France paye ici 20 ans de désindustrialisation, les usines ont fermé par centaines, celles qui sont encore debout n'ont pas assez investi pour se moderniser. Et ce n'est pas tout, à quelques exceptions près comme le luxe ou l'aéronautique, on ne produit pas grand-chose que les autres pays du monde veuillent nous acheter au prix auquel on le propose. Bilan, quand la reprise est là, on importe plus qu'on exporte, et cela in fine pèse sur notre croissance. Alors non, monsieur Macron, la France n'est pas de retour. Il faudra bien plus que des slogans pour qu'elle retrouve une place de choix dans le commerce mondial.
Merci Virginie. Karine.
Moi, c'est une image qui m'a marquée cette semaine. Ce sont les 10 drapeaux français et européens qui ont été installés juste derrière le président Macron au moment de son discours. C'était mercredi après-midi, je crois, en Corse, à Bastia précisément. Alors, 10 drapeaux, en général, il y en a deux. Il y a un drapeau français et un drapeau de l'Union européenne. Donc, on a tous compris qu'il y avait une petite provocation de la part du président Macron. Alors, à l'égard de qui? À l'égard des nationalistes qui, malgré tout, rappelons-le, ont gagné les dernières élections, les élections territoriales. En fait, qu'a voulu faire Emmanuel Macron? Affaiblir les nationalistes, en tout cas c'est l'impression qu'il a donnée, et c'est un jeu qui me semble assez dangereux. Pourquoi? Parce que ils sont aujourd'hui les seuls interlocuteurs de Lille. La droite, elle est morte, la gauche, elle est morte, et La République En Marche, pour l'instant, ça n'existe quasiment pas. Le problème donc, en ne dialoguant pas avec les nationalistes, eh bien, c'est que vous prenez le risque de faire ressurgir une frange plus radicale avec une jeunesse, enfin une partie de la jeunesse, qui est en rupture et qui n'attend probablement que ça.
Merci Karine. Et pour lui, quel est le fait marquant de la semaine? Il présentait cette semaine l'une des réformes les plus ambitieuses du quinquennat, la création de la PSQ, la police de sécurité du quotidien. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, le numéro 2 du gouvernement, le premier flic de France. Gérard Collomb s'installe dans le studio 221 de la Maison de la Radio. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Beaucoup de questions à vous poser, vous vous en doutez. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine, Gérard Collomb?
Ben, je dirais que pour ce qui me concerne, mais ce qui concerne beaucoup de Français, c'est évidemment la police de sécurité du quotidien. Vous voyez, on avait préparé ces mesures, dont on parlera, avec un questionnaire envoyé à 70 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, qui nous ont donné quelles étaient leurs orientations. On a reçu 150 contributions. Les préfets ont organisé 500 réunions. Donc, on voit qu'il y a une attente profonde sur les problèmes de sécurité et que, je dirais avec vous, qu'il y a deux problématiques aujourd'hui dans notre pays. C'est à la fois l'économie, l'interrogation sur l'avenir et puis l'interrogation sur la sécurité au quotidien.
On va y venir, Gérard Collomb. Vous nous direz comment lutter contre la délinquance et retisser un lien avec les populations. Mais d'abord, une question d'actualité. Vous avez des nouvelles de Nicolas Hulot ?
Oui, j'ai des nouvelles de Nicolas Hulot qui a été affecté par ce qui s'est passé cette semaine. Et donc, moi, j'écoutais ce que vous disiez. Oui, on ne peut pas se fonder sur la rumeur. Oui, si on a des choses à dire, la justice est là pour cela. Il y a des lois dans notre pays, elles doivent être respectées par tous. Et on ne peut pas salir l'honneur d'un homme en accusant sans finalement apporter de preuves.
C'est quand même la première fois qu'un gouvernement se retrouve avec deux affaires de meurtre à gérer, c'est un peu gênant, non, quand même, parce qu'on parle de Nicolas Hulot, il y a aussi Gérald Darmanin.
Oui, sans doute, mais chaque fois on rappelle un certain nombre de faits qui sont extrêmement anciens et finalement on n'a pas la preuve aujourd'hui de ce qui est apporté. Moi, vous savez, je vois évidemment, en tant que ministre de l'Intérieur, beaucoup de dossiers. J'essaye toujours de faire en sorte de tirer les conclusions quand la justice, effectivement, a tranché.
Mais ne faut-il pas entendre la parole de souffrance d'une femme qui dit sa part de vérité et qui a porté plainte pour viol, malgré tout, en 2008?
Oui, bien sûr qu'on peut entendre la plainte. D'ailleurs, Marlène Schiappa l'a dit. Et une des mesures, par exemple, que l'on prend dans la police de sécurité du quotidien, c'est d'être davantage attentif aux violences qui peuvent être faites aux femmes. Je rappelle que l'année dernière, c'est sans doute le délit qui a le plus augmenté. Et donc, il faut y être totalement attentif.
Mais est-ce que, Gérard Collomb, est-ce qu'avec les premiers propos de Marlène Schiappa dans le... il y a quelques mois, est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de bienveillance vis-à-vis de toute cette délation, ces balances ton porc, ces MeToo? Est-ce que maintenant vous n'êtes pas un peu pris au piège de ce que Marlène Schiappa a pu dire publiquement et régulièrement?
Si vous voulez, je crois qu'il convient effectivement que la parole se libère, parce que vous aviez beaucoup de femmes qui, par exemple, dans leur foyer, étaient victimes de violences conjugales et qui n'osaient pas porter plainte. Aujourd'hui, elles osent. Je trouve que c'est bien, effectivement, qu'on puisse oser porter plainte.
Mais alors pourquoi c'est pas bien
plainte.
dans ce cas-là qui concerne Nicolas Hulot?
Non, mais c'est que, si vous voulez, le problème, c'est qu'il fallait, à l'époque, aller jusqu'au bout de la plainte. C'est pas, effectivement, 10 ans après. C'est cela qui est gênant. Si on accuse quelqu'un, qu'on porte plainte contre lui, on va jusqu'au bout de la plainte. Et ensuite, s'il est condamné, il est condamné. C'est ça qui me gêne.
Il va tenir le coup.
On porte plainte avant la prescription.
Oui, je pense qu'il va tenir le coup parce que c'est quelqu'un de caractère. Mais c'est vrai qu'il était très affecté. Il se trouve que moi, je suis allé chez votre confrère Bourdin le lendemain et tous les journalistes qui étaient présents me disaient combien effectivement il était sorti de l'émission défait parce que effectivement ça l'atteignait dans sa vie familiale, comme il le disait, dans son honneur personnel.
Encore un mot là-dessus, Karine.
Je reviens quand même sur le fait que c'est gênant pour le gouvernement, ce gouvernement qui va présenter dans une quinzaine de jours un projet de loi sur les violences sexuelles. Comment ce projet peut arriver devant le Conseil des ministres et autour de la table à voir Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, même si les faits effectivement sont prescrits, comme vous ne cessez de le rappeler, il y a effectivement maintenant un faisceau d'indices ou des interrogations en tout
Moi,
cas.
Moi, si vous voulez, je fais confiance aux enquêteurs, à la police judiciaire qui enquête sur toutes ces problématiques, et puis ensuite aux juges si effectivement les choses sont confirmées.
Mais le gouvernement
n'est pas
en porte-à-faux,
m'interdis. Par exemple, comme ministre de l'Intérieur, dès qu'une affaire arrive entre les mains de la police judiciaire, je m'interdis de demander quelles sont les suites, parce que je pense qu'il faut que les enquêteurs soient totalement indépendants et que notre justice soit indépendante.
Avant d'arriver au dossier dont vous avez la responsabilité, Gérard Collomb, le zapping de la semaine, il est signé Laurence Perron.
Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule.
Je suis Yvan Colonna, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet de Corse, Claude Erignac. Je purge actuellement ma peine à la prison d'Arles. Ma femme a interpellé Emmanuel Macron dans les rues d'Ajaccio mardi dernier.
La femme d'Yvan Colonna.
Bonjour madame.
Mon fils n'a pas vu son père depuis un an et demi. S'il vous plaît, c'est pas un animal, c'est un être humain.
Mais il faut organiser une visite.
C'est très cher.
Je ne vais pas mentir, l'amnistie suppose de prendre une loi. Mais... je vous mentirais si je vous disais ce soir dans les yeux que je vais le faire. C'est pas vrai. Que les personnes qui sont détenues puissent voir leur famille, ça fait partie des choses que nous allons assurer.
J'espère.
Vous me regardez dans les yeux, je ne vous mens pas.
Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte, comme si j'étais responsable de toute la misère du monde.
Ah non, pas toute la misère du monde, je suis le président de la République et j'apporte un petit cadeau.
Je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution.
Mais je préviens...
pensez que le cœur de la bataille, c'est d'aller négocier de nouvelles évolutions institutionnelles avant même d'avoir exercé les responsabilités qu'on a, je ne saurais vous encourager.
Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire.
Je suis autonomiste, avocat d'Yvan Colonna. Je suis Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, et je suis amer.
Le président de la République aurait pu s'affirmer comme l'homme d'État, capable d'enraciner la paix, de construire la réconciliation. Il a choisi de ne pas le faire. C'est une occasion manquée.
Je suis un homme. Bientôt, je serai un souvenir.
Je suis un petit monsieur roumain qui dort sur le trottoir à Paris.
Est-ce que vous voulez quelque chose à...
un soupe.
La soupe? Oui.
Le thermomètre va descendre jusqu'à moins 7 degrés cette nuit à Paris.
Comme ça, le froid, c'est pas chaud, pas de l'eau.
Ils sont des dizaines dehors cette nuit, entre neige et verglas. Et il y a danger de mort.
Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin, j'ai écrit « Tout va bien » au dos de la carte postale.
Je suis une maraudeuse, j'aide de jeunes exilés mineurs à trouver un toit pour la nuit.
J'ai appelé pour 6 mineurs isolés étrangers qui ont 16 ans.
Alors en fait, on va pas pouvoir prendre ça en charge. Par contre, c'est le service social qui va pouvoir vous prendre en charge. Ou alors les associations, vous avez pas des associations pour les mineurs?
Bah, on est une association pour les mineurs.
Mais... D'accord. Notre problème, même, c'est qu'on a des consignes. Donc à part vous rediriger vers le SAMU, je vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre pour vous, là.
Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis
un ministre qui en bave, un écologiste qui s'est cru un poisson invisible dans un monde de requins. Je suis Nicolas Hulot.
Pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer ce matin?
D'abord il y a un moment où j'en peux plus. J'en peux plus parce que, vous savez, on est ministre. Enfin on est quand même, j'espère qu'on est un peu... d'humanité derrière nous, on a une famille. Là, pendant que je vous parle, à l'instant où je m'exprime, pour mes enfants, la vie va être différente. Déjà à l'époque, il y a 20 ans, enfin il y a en 2008, quand cette plainte a été déposée, pour ma femme et moi, ça a été un traumatisme. Ça a été classé, j'ai souhaité en rester là parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Maintenant, ça revient.
Je suis un coup éditorial, une calomnie ou un vieux fantôme. Je suis l'exécutif qui réaffirme son soutien au ministre. Et je laisse le dernier mot au rappeur Big Flo et Oli.
Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immenses si denses. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France.
Merci Laurence Perron, c'était le zapping de la semaine. Notre invité aujourd'hui est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
France Inter. Ali Badou, question politique.
C'est la tradition, Gérard Collomb, votre portrait, il est signé Karine Bécart. Portrait ou retouche peut-être?
Oui, retouche. Gérard Collomb, l'exercice du portrait aujourd'hui avec vous est un peu délicat puisque nous vous avons reçu il y a de cela moins de 3 mois. Or, votre parcours n'a pas changé, je ne vais pas recommencer à expliquer qu'après 40 années passées au PS, vous ne vous êtes jamais vraiment senti socialiste et que le macronisme, qui d'un côté mise sur les entreprises et qui de l'autre fait preuve de fermeté sur les sujets de sécurité, ce macronisme a semble-t-il été directement inspiré par le maire que vous avez été. Seulement, il n'est pas question, Gérard Collomb, de reparler de Lyon. Non, ce qui m'intéresse désormais, c'est votre fonction de ministre. C'est votre dureté qui ressemble parfois peut-être à de la brutalité. comme en octobre dernier, par exemple, quand vous avez limogé un préfet. Certes, deux jeunes femmes avaient été poignardées à Marseille devant la gare Saint-Charles, mais en révoquant sur le champ ce haut fonctionnaire, vous avez surtout voulu lancer un avertissement, effrayer un peu vos troupes, leur montrer que vous ne laisserez jamais rien passer. Même inflexibilité, Gérard Collomb, face aux associations qui s'occupent des réfugiés. Elles vous demandent d'arrêter de recenser les migrants quand ils sont en centre d'hébergement d'urgence, sauf que vous continuez. Vous acceptez de vous expliquer. Vous devez souvent déminer avec les députés de votre majorité, mais cette ligne sécuritaire que vous avez, elle est chez vous parfaitement assumée. Ce qui est amusant tout de même, c'est qu'à une époque, vous avez été différent. Si, si. Mais je dois reconnaître que cela n'a pas duré longtemps. C'était il y a 17 ans exactement, vous vous souvenez ? Vous aviez osé transformer un bidonville à Lyon en un village d'insertion. Aujourd'hui, Gérard Collomb, vous avez totalement épousé la cause des policiers. Et si les mesures que vous avez jusqu'ici annoncées l'avaient été il y a 10 ans, tiens, quand Nicolas Sarkozy était président, parions qu'une partie du pays se serait déjà embrasée, rien de tel depuis 9 mois sous la présidence d'Emmanuel Macron, même si votre action est assez éloignée du discours qu'il a pu tenir avant son élection.
Gérard Collomb.
Je crois être ce que j'ai toujours été. Si vous voulez, il faut bien voir sur ces questions qu'il y a une double problématique. Il y a la problématique évidemment individuelle. Chacun d'entre nous ressent, je veux dire, de l'empathie. Je regardais le film que vous présentiez.
De Laurence
Comment
Coran.
Ne pas ressentir de l'empathie ? Et en même temps, la question des migrations est une question extrêmement difficile. Si l'on veut pouvoir maintenir dans notre pays le droit d'asile, c'est-à-dire le fait d'accueillir ceux qui sont persécutés pour des raisons ethniques, religieuses, voire politiques, il faut évidemment mener une politique qui soit conséquente vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui ne sont pas dans cette situation, mais qui voudraient venir en France. Et vous remarquez qu'il y a une double politique. Il y a une politique vis-à-vis, par exemple, de l'Afrique, qui est une région d'où partent un certain nombre de migrants. Et lorsque, par exemple, le président de la République va au Sénégal en disant « nous allons augmenter de 200 millions ». Les sommes que nous allons vous donner pour que les jeunes, à la sortie de leurs études, parce qu'aujourd'hui, il y a des universités qui sont performantes, puissent effectivement créer leur emploi, créer leur entreprise, des start-up, qui demain travailleront avec l'Europe, je crois qu'on est dans la même politique.
Mais parlons de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, Gérard Collomb. Parlons de ceux qui sont dans la rue aujourd'hui en France, et non pas de ceux qu'Emmanuel Macron est allé voir au Sénégal. Virginie Malingre.
Non, alors moi, oui, je voulais voir cette ligne du président de la République, elle a évolué, comme l'a dit Karine, entre le moment où il était en campagne et aujourd'hui.
Non, je ne crois pas qu'elle ait évolué, je vais vous dire pourquoi.
Alors, vous allez m'expliquer, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez réévalué la situation ? Est-ce que c'est l'opinion ? Vous sentez qu'elle est favorable à une ligne plus dure ? Est-ce que c'est de nouveaux arguments que vous n'aviez pas bien évalués à l'époque ?
Non, le président de la République a toujours dit, vous pouvez regarder les propos de campagne, qu'il souhaitait qu'on puisse évaluer la situation des personnes en 6 mois. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qui fait la problématique actuelle, c'est que les gens restent quelquefois 2 ans, 3 ans. Et lorsque l'on regarde, par exemple, ce que vous dites sur la région parisienne en particulier, il y a aujourd'hui 30 000 personnes qui sont dans des hôtels à Paris et qui y sont quelquefois depuis une dizaine d'années, alors que leur cas devrait être réglé. Si vous réglez les problèmes en 6 mois, vous pouvez dire qui va avoir droit à l'asile et commencer des mesures d'intégration sur la langue, sur l'insertion professionnel, et les autres, il n'y a pas de rupture. Vous pouvez effectivement faire cela de manière humaine. Ce qui, effectivement, est inhumain, c'est de laisser les gens dans l'entre-deux, et c'est ce que nous ne voulons pas faire.
Mais la question, c'était...
Karine puis Nathalie. Non, Karine, allez-y, puis Nathalie.
La question, c'était, Emmanuel Macron a changé, il y a eu une évolution. Je reviens sur un symbole qui était fort pendant la campagne électorale, c'est Emmanuel Macron qui va voir Angela Merkel quelques semaines semaine précédemment, c'était Manuel Valls qui l'avait fait en disant « mais c'est scandaleux ce que vous avez fait, vous avez laissé passer trop d'immigrés, jamais nous n'aurions fait ça ». Et Emmanuel Macron lui a voulu montrer un autre visage de candidat et de la France en disant « mais non, au contraire, je suis à votre côté, cette générosité-là vous honore ». Donc il y a bien une évolution parce que cette marque-là, ce symbole-là, les Français l'ont gardé forcément dans leur tête.
Si vous voulez, l'évolution, c'est effectivement la montée en puissance des demandeurs d'asile en Europe. On a vu effectivement des réseaux s'organiser. Vous voyez, par exemple, en France, on a 300 réseaux de passeurs qui ont été démantelés
l'an dernier. Donc Emmanuel Macron a évolué.
Ben, il a évolué, il a regardé quelle était la situation. Et par exemple, en Allemagne, on avait accueilli 800 000 personnes pendant une année, mais on a débouté 300 000 personnes du droit d'asile. Et donc, l'Allemagne va éloigner. Donc, il y a une politique qui est aussi balancée. Et si vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, quel problème de l'Allemagne aujourd'hui? C'est que vous avez 99 députés d'extrême droite. Donc, si vous ne réglez pas un certain nombre de problématiques en faisant respecter la loi, en étant accueillant d'une part, mais en expulsant ceux qui n'ont pas droit à être accueillis, eh bien, vous générez un mouvement qui, effectivement, conduit à l'extrémisation des esprits.
Alors, vous avez dit, en gros, si on peut comprendre, c'est moins en accueillir pour mieux les accueillir.
Absolument.
Alors, vous avez parlé d'humanité, d'être accueillant. Est-ce que, quand Emmanuel Macron s'est rendu à Calais, avec vous d'ailleurs, il a défendu les forces de l'ordre en disant qu'il n'y avait pas eu les exactions qui ont été dénoncées par des intellectuels, c'est pas un joli mot maintenant, par un certain nombre de journalistes. Je voulais savoir si vous aviez enquêté, si vous aviez on vous avait rendu des comptes et si on savait exactement ce qui s'était passé. On a accusé l'utilisation abusive de gaz lacrymogène, le fait d'avoir détruit des tentes et tout ça. Est-ce que vous savez ce qui s'est vraiment passé là-bas?
Gérard Collomb.
Alors d'abord, lorsque l'on s'est rendu à Calais, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir des CAES, qui sont les centres d'accueil et d'évaluation des situations, que l'on a créés, non pas juste à Calais, parce que nous ne voulions pas que la jungle puisse se réinstaller, mais à 30 kilomètres de Calais. Et c'est cela que l'on fait. Essayez de dire aux gens, venez, nous allons vous accueillir. Aujourd'hui, en fait, les gens qui sont à Calais sont des gens qui sont guidés par une chimère folle. Je vais passer en Grande-Bretagne. Mais en fait, ils n'y arriveront jamais. Et c'est cela le véritable problème. Le message qu'il faut faire passer, c'est retourner dans les centres d'évaluation, dans les CAO qui sont à travers le pays. Ne restez pas à Calais. Quant à la problématique des policiers, on n'avait pas attendu les derniers événements. Moi, dès le mois de juillet, j'avais demandé une inspection de l'administration qui a évalué les situations. Et croyez-moi, nous sommes extrêmement vigilants vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais voyez,
il y aura des
images
sanctions
extrêmement violentes.
Est-ce qu'il y
aura
des
sanctions?
Quand vous
avez vu les affrontements pour lesquels je suis allé la semaine dernière avec des migrants, vous permettez, des migrants qui effectivement se tuent dessus avec quatre personnes qui sont entre la vie et la mort, évidemment que c'est violent, et il vaut mieux à ce moment-là que vous ayez les forces de l'ordre qui séparent les deux groupes, les Afghans et les Érythréens.
Mais les enquêtes sur les interventions de forces de l'ordre, ça a donné quoi?
Que l'inspection générale de l'administration a dit que l'intervention des forces de l'ordre était proportionnée, qu'il pouvait y avoir eu un certain nombre de cas isolés, mais que les forces de l'ordre, dans leur globalité, agissent selon les règles de déontologie.
Et vous deviez prendre une circulaire à la suite de tout ça, et notamment du discours de Calais, pour que les forces de l'ordre gèrent parfaitement bien les effets personnels, et notamment les sacs de couchage des migrants. Elle a été signée ou pas, cette circulaire?
Mais si vous voulez, nous avons gardé. Oui, on a envoyé une circulaire pour rappeler quelles étaient les règles de déontologie. Mais si vous voulez, quelquefois, il y a beaucoup de montagnes. D'abord, ce ne sont pas nos policiers qui ramassent les scènes de couchage. Je vous rappelle que sur une scène que l'on a vue, il n'y avait pas marqué police nationale, il y avait marqué police municipale. C'est différent, moi je ne gère pas les polices municipales. Et qu'est-ce qui se passe quand un certain nombre de migrants ont quitté les lieux? En général, ils laissent derrière eux beaucoup de choses et on est bien obligé de ramasser derrière. En général, ce n'est pas nous qui le faisons, mais les services municipaux qui le font à Calais comme à Paris, parce que en général, quand on vide un campement quelque part, il y a un certain nombre de choses qui sont laissées.
Question qui concerne les sans-papiers qui sont aujourd'hui dans les centres d'hébergement d'urgence. Faut-il les faire sortir de ces centres-là, Gérard Collomb ?
Aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, pris une circulaire pour essayer d'évaluer qui était dans ces centres, puisqu'on ne le savait pas.
Inacceptable, on dit, des associations, Emmaüs, la CIMAD,
oui,
Médecins du
même
Monde,
temps,
le Secours catholique,
temps,
qui ont claqué
si
la
voulez,
porte d'une réunion avec vous.
En même temps, si vous voulez, vous avez des gens qui sont de toute nature. Vous avez à la fois des réfugiés qui mériteraient de pouvoir sortir de ces centres et d'aller vers le logement. Ceux-là, effectivement, c'est à peu près peut-être 20 à 30%. C'est scandaleux qu'ils soient encore dans ces centres et quelquefois qu'ils soient restés ou qu'ils soient à l'hôtel et qu'ils y soient depuis des années. Vous avez des gens qui sont des déboutés du droit d'asile et qui auraient dû être éloignés. Et donc, effectivement, un certain nombre de personnes, pas celles dans ces centres, mais qui doivent être éloignées. Nous respectons le droit, la loi, ce qui, aujourd'hui, permet de vivre en commun. Demain, pourraient être éloignés. Puis vous avez surtout beaucoup de gens qui sont dans le nini. Et le nini, c'est parce que effectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans les années passées et que l'on a stocké des gens qui ne sont ni acceptés ici et qu'on ne peut pas éloigner
papiers,
non plus.
Sans papier, on peut rejeter des personnes malgré le froid, les rejeter dans la rue.
Mais aujourd'hui, on ne veut pas les rejeter dans la rue. Moi, j'ai envoyé dernièrement une circulaire à tous les préfets pour leur dire que pendant la période grand froid, on accueillait tout le monde et on a mobilisé des dizaines de milliers de places supplémentaires, y compris d'ailleurs des gymnases. On a demandé à la RATP, à la SNCF d'accueillir de manière que on puisse accueillir tout le monde, parce qu'effectivement, on ne peut pas, pendant ces périodes, être dans la rue.
Virginie.
Donc, vous voulez renvoyer les déboutés du droit d'asile, mais vous savez très bien qu'un des problèmes, c'est que dans les pays de retour, vous n'obtenez pas les laissez-passer consulaires qui vous permettraient de les renvoyer dans des conditions décentes. Donc comment vous réglez ça? Parce que ça, c'est pas une loi, c'est pas une circulaire. Comment on fait?
Ben alors, d'abord, si vous voulez, il y a un certain nombre de pays qui accepte totalement. Et par exemple, je m'étais rendu en Albanie il y a à peu près 3 ou 4 mois pour discuter avec le Premier ministre albanais. Les Albanais, dont je rappelle qu'aujourd'hui, ils arrivent, ils n'ont pas besoin de visa pour venir en France, donc ils arrivent librement et ils font une demande d'asile. Aujourd'hui, notre droit ne permet pas de les renvoyer. Et donc, la future loi permettra de le faire. Et les autorités albanaises accueillent, non seulement elles accueillent, mais elles envoient, par exemple, une mission en France pour nous aider à gérer ce problème.
Oui,
je rappelle que les Albanais,
le cas, par exemple,
c'est 25% de l'occupation des places du dispositif national d'asile. Après, pourquoi Emmanuel Macron va en Afrique pour dialoguer justement avec les dirigeants des pays? Moi, je dois aller au mois de mars avec le G5 Sahel pour traiter cette question. Lorsque je regarde aujourd'hui quels sont les pays qui posent des problématiques, c'est par exemple la Guinée, plus 66% d'arrivées l'an dernier. C'est la Côte d'Ivoire, plus 112%. Il faut régler effectivement ces problématiques et nous allons le faire avec les gouvernements pour avoir des laissés-passer consulaires.
Karine, alors, puis Nathalie. Nathalie.
Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen considèrent que vous faites beaucoup de moulinets, pas vous spécifiquement, mais vous, Emmanuel Macron, et qu'en fait, finalement, et peu de gens sont reconduits chez eux ou à la frontière ou là où ils deux. En tout cas, pas en France. À quel taux?
Alors écoutez, je ne sais pas si ça va vous plaire ou vous déplaire. Sur le mois de janvier de cette année, par rapport au mois de janvier de l'année dernière, on l'a éloigné plus 29% de personnes.
D'accord. C'est quoi le taux optimal, optimum? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Non pas pour faire du chiffre comme on dit, mais simplement à partir de combien on verra les effets où vous estimez que vous serez exactement dans les clous de ce que vous souhaitez faire?
Je ne traite pas le problème comme cela. Moi, si vous voulez, ce que je veux, c'est que celles et ceux que nous accueillons en France aient un avenir dans notre pays. Si effectivement, c'est pour 2 ans après qu'ils se retrouvent dans des cités qui connaissent déjà de grands problèmes, où les gens sont marginalisés, où ils connaissent la misère. Alors ça, à mon avis, ce n'est pas une solution
pour... Ça, on a compris ce que vous disiez, c'est-à-dire mais mieux. Mais simplement, pour que ça puisse marcher, ça veut dire qu'il faut passer à quel niveau de reconduite.
Mais moi, je ne me donne pas de chiffres. Je ne peux pas simplement faire en sorte que d'année en année, on ait une augmentation exponentielle. Vous voyez, l'année dernière, on a eu 100 000 demandes d'asile. C'était plus 7% par rapport à l'année précédente, qui elle-même était en augmentation de plus 23% par rapport à l'année précédente. Donc, on ne peut pas comme ça dire on va monter de manière exponentielle. Vous parliez du dispositif d'asile. Depuis 2012, il a été multiplié par deux. Les dispositifs CHR, centre d'hébergement d'urgence, ils ont été multipliés par deux. On est pour l'un maintenant à 85 000, pour l'autre à 103 000. Donc on ne peut pas de manière infinie augmenter cela. Vous voyez, si je donne des chiffres en termes de coûts, le dispositif d'asile, c'est 2 milliards d'euros, et le dispositif hébergement d'urgence, c'est 2 milliards d'euros. Simplement pour Paris, sur le dispositif hébergement d'urgence, c'est 930 millions. Donc évidemment, il y a un moment donné où on ne peut pas faire de manière exponentielle un accueil vis-à-vis de tout le monde, comme un certain nombre de gens le voudraient. Ils disent... On n'a pas besoin de faire un tri, on ne doit pas choisir entre celles et ceux qui ont besoin de l'asile et les migrants économiques. Ben si, on est obligé de le faire, parce qu'à un moment donné, nous ne pourrons pas donner un
les
avenir.
Les associations disent que dans hébergement d'urgence, il y a urgence, et que face à l'urgence, il n'est pas question de recenser, de trier ou d'étiqueter.
Nous disons effectivement que l'inconditionnalité, c'est vrai, mais l'inconditionnalité, c'est dans le moment... Ce n'est pas effectivement quelque chose qui doit durer pendant 10 ans. On doit prendre un certain nombre de mesures pour sortir justement du provisoire et donner un avenir. Et c'est à quoi nous nous employons aujourd'hui.
Juste toute la majorité derrière vous, parce qu'on a cru comprendre que ça grognait quand même, que certains considéraient que vous étiez valsisé, vous et Emmanuel Macron, ou alors vous aviez toujours été...
Valsisé n'est pas un compliment apparemment.
Dans la bouche de Benoît Hamon, non. Est-ce que ça grogne ou en gros, est-ce que vous allez lâcher un peu de lest sur un certain nombre de choses?
Nous discutons beaucoup avec les députés En Marche, Modem, les constructifs. Et moi, je suis toujours dans la transparence. C'est-à-dire, même y compris vis-à-vis des associations, parce que je pense que la politique qu'on mène est juste. Et donc, quand vous menez une politique que vous pensez juste, vous essayez pas de camoufler les choses. Moi, je présente toujours les choses telles qu'elles sont. Et j'essaye d'expliquer. Donc, je reçois beaucoup de députés En Marche, des députés de tous les groupes. D'ailleurs, j'irai m'exprimer devant des représentants de tous les groupes de l'Assemblée nationale avant de présenter la loi asile et immigration. Mais voilà, il faut aller de l'avant, et je crois qu'ils le comprennent bien. On va avoir une loi sur le problème spécifique des Dublinés, c'est la proposition de loi Warsmann. On l'examine la semaine prochaine, et je pense qu'elle sera adoptée.
On va avancer, encore une question sur le sujet, Karine.
Juste une dernière question, dans ce projet de loi asile et immigration, qu'est-ce que vous avez prévu pour les jeunes isolés, les mineurs isolés? La plupart sont dans la rue. Comment on fait? Comment la France a envie de gérer l'avenir de ces réfugiés qui sont des réfugiés particuliers, là? Ils sont mineurs.
Gérard, alors, si vous voulez, pour une fois, ce n'est pas de mon domaine, je dirais, pour le moment, parce que le Premier ministre a nommé une mission conjointement avec les présidents de département, puisque c'est eux qui gèrent avec l'ASE, donc l'aide à l'enfance, ce problème des mineurs isolés. Donc les conclusions vont être données dans quelques temps, mais vous avez raison, c'est un problème énorme. On est passé, en l'espace de 3 ans, de 4 000 mineurs à 14, 15 000 mineurs isolés. Donc c'est un vrai problème. Et en plus, dans ces mineurs isolés, il y en a 60% qui n'ont pas été reconnus mineurs. Donc vous voyez qu'on a des problématiques qui sont quand même importantes et donc qu'il faut prendre avec sérieux.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est l'invité de Questions politiques.
Questions politiques sur France Inter.
C'était jeudi, Gérard Collomb, vous dévoiliez la police de sécurité du quotidien, une promesse du candidat Emmanuel Macron. Question de Nathalie Saint-Cricq.
Vous dites beaucoup que vous voulez sortir de la logique de la politique du chiffre. Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Si vous allez interroger des policiers et des gendarmes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent, voilà, aujourd'hui, nous, on croule sur la bureaucratie, pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on nous demande chaque jour des statistiques, des reportings, et on passe notre temps à faire des papiers plutôt qu'à être sur le terrain.
Ça
deuxième chose
allégé.
Qu'ils vous disent, c'est aujourd'hui, la procédure pénale est devenue hyper compliquée, et donc pour une heure d'enquête sur le terrain, on est obligé de faire 7 heures, où là aussi, on fait un certain nombre de procédures.
Mais c'est pas ça la politique des chiffres. C'est pas ça la politique des chiffres.
Si, attendez. Et donc, les juges et les magistrats vous disent, nous, on ne peut plus gérer cela comme cela. Qu'est-ce qu'on va faire ? On dit, nous d'abord, on décentralise. Parce que la délinquance, elle n'est pas la même suivant les territoires. Et croire qu'il y a une seule direction, c'est totalement faux. Suivant que vous êtes dans un quartier, vous avez une délinquance qui est principalement faite d'usage de stupéfiants à un haut niveau, que vous avez des trafiquants, ou bien que vous êtes dans la petite délinquance, vous ne pouvez pas avoir le même type de police. Et les policiers vous disent, mais le chiffre à faire... c'est facile. Je sais où je peux faire du chiffre. Je vais aller en faire. On me dit, il faut en faire 30 dans la journée. Il faut en faire 30 dans la journée. Moi, je vais vous faire les 30. Il dit, c'est pas ça. C'est changer concrètement la situation. Et donc, nous, plutôt que demander des reportings chaque jour, on va évaluer après. Vous voyez, je dis au DDSP, au commissaire de police, allez-y, vous avez carte blanche pour d'abord élaborer une stratégie avec les élus locaux, avec les populations, avec les représentants de bailleurs sociaux. Puis, dans un an et demi, on va aller évaluer ce que vous avez fait. On va vous donner des moyens, puisque, je vous rappelle, on recrute 10 000 personnes pour les 5 ans. Donc, partout, pas simplement dans les 30 quartiers que l'on a fléchés, dans les 20 départements que l'on a fléchés, mais partout sur le territoire, ils vont avoir des effectifs supplémentaires, ils vont avoir une capacité à disposer de matériel moderne, vous savez, les tablettes, les smartphones, les caméras piétons qui vont changer la police et la gendarmerie, qui vont la faire passer du 19e siècle au 21e siècle. Eh bien, cela doit avoir des conséquences positives, et un an après, on évalue ce que vous avez fait.
Virginie Malingre.
Alors, vous dites aussi, ça m'interroge beaucoup, que vous voulez mettre en place une évaluation de la police qui va associer la population. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai un contrôle d'identité demain, après je vais remplir une enquête de satisfaction, c'est
non,
quoi ?
Non, Gérard Collomb.
Non, c'est pas exactement ça. Si vous voulez, nous avons voulu travailler, je
ce
vous
serait
le disais,
bien pourtant.
Avec l'ensemble
j'ai
des...
J'ai l'air de la remplir, moi, mais...
Avec l'ensemble des policiers, avec l'ensemble des gendarmes, mais également avec tous les élus de France et avec les représentants de la population. Vous savez, moi, j'ai été, comme vous le rappelez, maire, je sais qu'il y a des conseils de quartier. Si dans ces conseil de quartier. Vous avez un référent qui travaille avec la police. À mon avis, c'est mieux pour l'ensemble de la population. Nous avons voulu associer aussi un certain nombre d'universitaires, de chercheurs. Vous avez vu que nous avons travaillé avec Opinion Way pour dépouiller. Mmh. Demain, nous prendrons un quartier et nous irons interroger la population en disant, à votre avis, est-ce que la situation en matière de sécurité s'est améliorée depuis un an ? Et là, nous aurons effectivement la réponse pour savoir si les gens perçoivent que la sécurité s'est améliorée ou pas. Yes. J'étais hier à la Paillade, à Montpellier, où on inaugurait cette police de sécurité. Eh ben, dans un an et demi, on va me dire à la Paillade, est-ce que ça marche mieux ? Ou est-ce que c'est comme avant ? Et là, j'aurai ma réponse.
Et est-ce que vous irez à Trappe pour faire des enquêtes ?
Bien sûr,
pour savoir
si
les relations entre les jeunes des quartiers et les policiers s'améliorent. Donc ça, c'est pas une question de sécurité, c'est une question de relations.
Mais si vous voulez, lorsque, par exemple, on met les smartphones, avant, lorsque vous faisiez un contrôle d'identité, il fallait téléphoner au commissariat pour savoir si le jeune était fiché otage, au FSPRT, etc., etc. Là, vous sortez votre téléphone, ça demande exactement une minute. Vous regardez, vous relâchez. Évidemment que ça change le rapport entre la population, les jeunes en particulier, et la police. Donc oui, c'est à travers ces mesures qu'on va changer la relation. Et moi, je veux apaiser partout. Alors évidemment, ceux qui sont des grands trafiquants, et on a un certain nombre, on n'apaisera pas. Mais avec effectivement les jeunes, je veux apaiser. Moi, quand je vous disais à Montpellier, je suis allé discuter avec tout le monde parce que j'ai encore mes pratiques de maire. Moi, je rentre dans un café, je vais serrer la main des gens. Il y en a un qui me paye un café, je discute avec lui. Il veut faire un selfie, je fais un selfie avec lui. Je lui dis, mais fais attention, tu fais un selfie voilà, avec moi, mais si jamais tu es arrêté, c'est double tarif pour toi. Il faut pouvoir retrouver un dialogue à la fois.
Non seulement ferme, il vous offre un café, temps, mais en plus vous lui dites que si jamais il se fait arrêter, il sera puni.
Bien sûr, parce que partout je tiens un discours de fermeté. J'étais avec des mamans là, j'aurais dit, soyez ferme avec vos enfants. C'est pas dans la dérive, dans la délinquance que l'on peut trouver sa voie. C'est dans le travail. Dites-leur qu'à l'école, il faut travailler. Le ministre de l'Éducation nationale est en train de dédoubler les classes. Profitez-en. Donnez-leur des perspectives. C'est comme cela, effectivement, que vous construirez pour eux un avenir.
Karine, puis Nathalie.
Vous parlez de référents que vous voulez dans les conseils de quartier pour discuter avec la police. Tout à l'heure, vous disiez, voilà, il faut que la police parle avec les bailleurs sociaux. Il faut qu'ils parlent avec les principaux des collèges. Il faut qu'il parle avec les élus. On sent que vous voulez remailler le
territoire.
Le territoire. Oui. Est-ce que finalement, cette police de sécurité, ce n'est pas le retour des RG qui nous manque finalement, non, pour surveiller le territoire ?
Les renseignements généraux.
Ce qui est sûr, oui. Ce qui est sûr si vous voulez, c'est que l'ensemble des policiers et des gendarmes sont des fabuleux détecteurs. À la fois de sensibilité, d'évolution des populations. Vous voyez, dans la gendarmerie, ils ont même créé déjà ce qu'ils appellent des brigades de contact. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire forcément de la répression, mais ils vont voir tout le monde. Ils vont voir les commerçants, ils vont voir, comme vous le dites, le proviseur, ils vont voir la population, etc. Et tout d'un coup, ils détectent. Et par exemple, le renseignement territorial, même pour les cas problématiques qui concernent par exemple le terrorisme, ils font remonter de l'information.
Si vous
ne faites pas remonter de l'information, vous êtes aveugle pour agir. Et nous voulons que les policiers, les gendarmes, puissent avoir du renseignement pour mieux maîtriser les problèmes d'insécurité.
Donc à la réponse de Karine, la réponse est oui.
C'est le retour des RG.
C'est pas exactement les RG. C'est quelque chose de différent, parce que les RG, c'était maintenant il y a une dizaine d'années, donc c'est totalement différent. En particulier, les RG s'occupaient de renseignements politiques. Moi, ça m'importe peu
que
les gens aient telle ou telle opinion politique.
Mais
vous dire que moi, j'ai dit, par exemple, dans la loi que nous avons faite, la loi SILT, je ne mettrai pas les problèmes d'ordre public parce que je ne veux pas qu'on confonde les problèmes. Vous savez, c'était la loi sur le terrorisme.
Je ne veux pas
que l'on confonde l'ordre public, les opinions politiques et puis ces problèmes gravissimes du terrorisme.
Nathalie.
Gérard Collomb, juste une petite précision. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, s'était engagé sur un service militaire universel obligatoire. Vous avez parlé tout à l'heure des mamans, des jeunes, leur dire qu'il faut travailler. On nous avait un peu vendu cette histoire comme quelque chose relevant de la cohésion nationale. Florence Parly, il y a quelques jours, dit « Oh, bah, franchement, ça ne sera sûrement pas obligatoire. » À quoi ça sert si ce n'est pas obligatoire ? Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que le président de la République, on peut peut-être lui attribuer quelques défauts, mais en tout cas, il a une qualité, c'est la persévérance dans les idées. Alors aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la forme que cela pourrait prendre, mais il a encore réaffirmé récemment qu'il voulait effectivement faire ce genre de service.
Alors, obligatoire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement ?
Donc, vous si dites vous voulez, le fait que pendant une période brève, tous les Français, de quelques conditions sociales qu'ils soient, se retrouvent ensemble, franchement, c'est quand même pas mal.
Donc il faut que ce soit obligatoire ?
Oui, bien sûr.
Non, mais c'était juste pour avoir une précision et une réponse extrêmement claire avant de donner la parole à Karine.
Alors, c'est plus le service d'un an qu'on connaissait par le passé.
Non, un mois minimum.
C'est quelques semaines, un mois, mais au moins, on se retrouve ensemble.
Garçons et filles. Garçons et filles.
Je
pose la question naïvement.
Mais... peut-être pas dans le même dortoir, mais enfin, garçons et filles, oui.
Bon, écoutez, ça va
dommage.
Faire... Oui, voilà, dommage. Est-ce qu'il y aura une nouvelle politique pénale pour accompagner cette réorganisation de la police que vous venez d'annoncer, puisque vous annoncez beaucoup de réformes, mais tout apparemment a l'air de se concentrer sur cette politique pénale, sur ce que les affaires deviennent devant les juges.
Nous travaillons depuis maintenant environ 3 mois avec la garde des Sceaux pour cette réforme de la procédure pénale. Parce que je vous dis, à la fois policiers, mais en même temps magistrats, font absolument le même
et
constat.
Et c'est pourtant cette nouvelle politique
pénale. Je crois que Madame Belloubet, d'ici, on va dire la fin du printemps, devrait porter cette réforme de la procédure pénale de manière à pouvoir numériser les procédures, à pouvoir oraliser un certain nombre de témoignages, par exemple sur les gardes à vue. Donc oui, nous allons aller de l'avant. Et je dirais que la police de sécurité du quotidien ne se mettra en place qu'à partir du moment où nous ferons en même temps la réforme de la procédure pénale.
Mais les policiers se plaignent d'avoir une, alors comment on va dire ça, d'avoir une réponse pénale inadaptée, ou en tout cas de manquer de réponse pénale parfois. Concrètement, qu'est-ce
que
vous...
Il y aura, si vous voulez, comme vous le savez là-dessus, ce que le candidat Emmanuel Macron avait appelé la forfaitisation. Donc ça veut dire que sur les petits délits,
c'est des amendes.
On fera payer les gens. Ce qui reste un délit, le cannabis par exemple, mais qui pourra continuer à être judiciarisé si derrière vous apercevez que le délit est plus important. Mm-hmm. Donc il y a la forfaitisation des petits délits. Il y a en même temps l'effectivité des peines, parce que ce que nous pensons, c'est que si effectivement la peine prononcée n'est pas effectuée, évidemment elle perd de son sens, parce que tout le monde sait, je suis condamné à moins d'un an de prison, je ne ferai jamais de prison, et donc je n'aurai pas d'effectivité de la peine. Et ce dont se plaignent les policiers, y compris ceux qui sont victimes d'agressions, c'est oui, ils vont être condamnés, mais dès le lendemain, ils sont à nouveau dans le quartier. Puis enfin, troisième disposition, on pourra prononcer l'éloignement d'un certain nombre de quartiers.
Vous êtes le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vous êtes aussi ministre des Cultes, et la réorganisation du culte musulman est l'un des chantiers engagés par le président de la République. Est-ce que c'est à l'État d'organiser un culte religieux ?
Moi, je suis sur une position d'abord théorique qui est celle de la loi de 1905 et d'Aristide Briand. C'est-à-dire que, effectivement...
Donc non.
Attendez, laissez-moi vous citer Aristide Briand, si vous voulez. Il disait « Cette loi est une loi de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer la religion de son choix, et c'est le dernier codicille qui est important, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. » On voit bien que nous avons aujourd'hui un certain nombre de difficultés, tout simplement parce que tout le monde, aujourd'hui, peut se proclamer imam. Et donc, faire en sorte qu'on puisse développer les diplômes universitaires qui permettent d'avoir une certaine formation des imams, permettre que l'on n'ait pas simplement des imams qui soient envoyés par des pays étrangers, qu'il y ait des imams de la République française.
Mais c'est
quelque chose d'important.
C'est à la République, c'est à vous de décider qui est imam et qui ne l'est pas.
On l'a fait, par exemple, sur la prise en charge des aumôniers sur la pénitentiaire, sur les militaires. C'est bien l'État qui est intervenu à ce moment-là. Oui, peut-être faut-il, d'une manière ou d'une autre, que nous puissions intervenir.
On attend une expression d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Ça fait un moment qu'on l'attend, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plutôt partisan d'une laïcité ouverte, comme semblait l'être Emmanuel Macron durant la campagne, en
tout cas ? Ou Aristide Briand ?
Ou plus strict, comme semble l'être M. Valls, que nous avons cité tout
à
l'heure ?
Moi, je suis pour Aristide Briand, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de définir adjectif la laïcité. C'est la laïcité, point final.
Est-ce que vous reprendriez...
Vous savez, Aristide Briand disait, vous savez comment est venue cette loi ? Elle est venue par le petit Percombe, qui était un bouffeur de curé, et donc qui voulait faire une loi anti-religieuse. Et elle a terminé par Aristide Briand, qui l'a assumée comme une loi de liberté. Donc moi, je l'assume comme l'assumait Aristide Briand.
Alors, est-ce que vous considérez qu'il y a, comme Emmanuel Macron a pu le dire, qu'il y avait une forme de radicalisation de la laïcité ou d'un intégrisme laïque ? Est-ce que vous considérez qu'il y a en France un certain nombre de personnes, de mouvements, qui sont complètement des obsédés de la laïcité et qui sont différents de vous, qui êtes plutôt pour une laïcité de liberté, quelque chose de certes brillant, mais beaucoup plus ouvert ?
Si vous voulez, sur le fond des choses, moi, je pense que chacun est libre d'avoir une conception spirituelle de son choix, ou philosophique. Je veux dire, certains sont religieux, d'autres sont agnostiques.
Est-ce qu'on peut être un radical laïque ? Je veux dire, qu'est-ce que ça peut vouloir
dire,
ce terme-là ?
Moi, je veux que la société puisse vivre ensemble. Vous voyez, j'avais fait, lorsque j'étais maire de Lyon, un groupe qui s'appelait Concorde et Solidarité, où je réunissais chaque fois, une fois dans l'année, mais si besoin plus, l'ensemble des principaux dirigeants des différentes religions. Et quand il y avait un problème qui devenait grave, nous portions une parole commune. Et croyez-moi, ça empêchait que les communautés puissent se monter les unes contre les autres et que des gens qui sont de convictions différentes, tout d'un coup s'en prennent à l'autre.
Est-ce que vous considérez qu'il y a des intégristes de la laïcité ? Je pose une question très simple. Quand on voit qu'une jeune femme de The Voice est parce qu'il y a eu un certain nombre de pressions, ou de Jean Menel, considérant qu'elle avait émis sur les réseaux sociaux des thèses complotistes, est-ce que vous considérez qu'il y a en France une espèce de lobby d'intégristes laïques ?
Je vous pose une question. Si vous voulez, vous avez de tout. Hein. Vous avez les extrémistes de tous bords. Hein. Vous avez des gens qui, on le voit bien dans le pays.
Mais de tous bords, est-ce que
sur, par exemple, l'islam radical sont en train de basculer dans des théories qu'évidemment nous ne pouvons accepter, qui ont conduit aux dérives que l'on a connues aux attentats. Vous avez des gens qui, d'un autre côté, lorsqu'ils voient quelqu'un musulman, tout d'un coup ont l'impression qu'ils ont affaire à un terroriste. Donc voilà, faut trouver une juste mesure, d'accord, un juste équilibre, et essayer de rassembler notre société. Moi, ce dont je me flatte quand j'étais à Lyon, c'était d'avoir plutôt une société apaisée. Ce que j'ai fait au niveau local, j'aimerais bien le faire au niveau national.
Il nous reste très peu de temps, Karine.
Je voudrais finir avec la Corse. Est-ce que vous reconnaissez une erreur de la part d'Emmanuel Macron dans sa gestion du dossier Corse quand il s'est déplacé sur place ?
Gérard Collomb.
Si vous voulez, on ne peut pas juger de ce qu'est une politique vis-à-vis de la Corse sur l'instantané. C'est une série de points qui vont former une ligne. Et donc, vous jugerez lorsque vous aurez toute la ligne. Non, non. Il a rappelé deux choses. Il a rappelé, je le regardais dans votre petit zapping, il a rappelé, un, déjà que cette collectivité unique avait beaucoup de pouvoir. Et donc, il fallait exercer ces pouvoirs. Deuxièmement, que si on trouvait qu'on ne pouvait pas exercer un certain nombre de compétences, il était prêt à réviser la Constitution. C'est quand même pas quelque chose de facile sur, par exemple, sur l'article 72, ajouter un alinéa éventuellement qui permette de renforcer. Mais une condition, c'est que ça soit pas simplement de l'affichage, mais que ce soit effectif. On me parlait beaucoup en face de nous de symboles. Je leur ai rappelé, c'était l'ancien professeur de grec, ce que voulait dire symbole. Symbole en Grèce, c'était ce qui rassemblait. Vous aviez deux fractions de pièces et vous les rassembliez et ça montrait que vous étiez prêts à travailler ensemble. Et donc, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse travailler ensemble.
Mais il avait quand même un ton très donneur de leçons.
On va en rester là justement sur la Corse, l'émission touche
malheureusement
à son
terme. Il est prêt en tout cas à faire en sorte qu'on porte pour la Corse et pour les Corses un véritable avenir. Cet avenir ne peut pas être de fermeture, il faut qu'il soit d'ouverture.
Hier, les zadistes faisaient une grande fête à Notre-Dame-des-Landes. Gérard Collomb, est-ce que vous avez partagé leur enthousiasme ?
Et leur joie.
J'ai même vu qu'ils avaient fait mon effigie, donc tout va bien.
Combien de personnes sont encore sur place quand même ? Combien de zadistes encore sur place ?
Je crois qu'à l'heure qu'il est, peu de personnes, si vous voulez, ils sont tous
repartis. Les irréductibles restent alors.
La décision que nous avions prise, c'était justement de ne pas affronter frontalement pour une décision qui était datée. Parce
avant
que nous comprenons qu'il y a des gens qui effectivement peuvent être de bonne foi, et les gens de bonne foi, nous ne voulons pas effectivement donner l'impression
mais
que
l'État est toujours contre. Mais vous serez ferme et intransigeant au printemps.
Mais on sera ferme et intransigeant. Pour nous, il n'y a qu'une chose qui compte, le respect de la loi pour tous, pour nous comme pour les autres.
Il reste une poignée de secondes. Renoncerez-vous à la limitation de la vitesse à 80 km/h ?
Vous étiez réticent. Demandez au Premier ministre, il vous répondra. Il vient.
Vous disiez que ça avait été pris avec trop de précipitation.
Comment ?
Cette décision a été prise avec trop de précipitation. Il faut revenir dessus.
Il a décidé de discuter de ce problème. avec les présidents de conseils départementaux qui sont les premiers concernés, comme vous le savez, par la mesure. Donc les choses vont être, comme toujours, dans la concertation.
Merci Gérard Collomb, merci à toutes les trois, merci à Mathilde Clade. Question politique, c'est terminé.